Radio de la Paix, il est 12h. Le journal de midi, Jean-Claude Mabéa.
Il est 12h à Abidjan, Yamoussoukro et partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. Infrastructure routière, le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Begré-Mambé, procède ce mercredi aux ouvertures successives à la circulation de la voie de contournement d'Abidjan Y4, du quatrième pont d'Abidjan, des voies de sortie est et ouest d'Abidjan, de l'échangeur du carrefour Makassi et du tunnel du rond-point de la mairie d'Abobo. Coupe d'Afrique des Nations J-3, la Côte d'Ivoire a pris toutes les dispositions nécessaires pour accueillir et héberger plus de 2 millions de visiteurs attendus à la faveur de la 34e édition de la CAN 2023, a rassuré le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, hier mardi 9 janvier 2024 à Abidjan Plateau. Un dossier d'actualité consacré à la CAN 2023 à San Pedro qui accueille la poule F vous sera proposé par Kofi Benson, notre correspondant dans le Bassa Sandra. Il va nous plonger dans la ferveur de ce rendez-vous footballistique dans la cité balnéaire. Et hors de Côte d'Ivoire, la bande de Gaza toujours à feu et à sang. Anthony Blinken à Ramallah ce mercredi. Et en fin d'édition, vous aurez l'invité de la rédaction, chef du bureau Afrique de l'Ouest de Reporters sans frontières, Sadibou Maron, interviendra sur le récent classement mondial de la liberté de la presse, classement dans lequel la Côte d'Ivoire passe de la 37e à la 54e place. Merci de nous rejoindre sur Radio de la Paix pour vous informer. Madame, Monsieur, bienvenue. La première partie de ce journal est entièrement consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. À 72 heures du coup d'envoi de la 34e édition de la CAN 2023, le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, était hier mardi 9 janvier 2024 face aux internautes dans le cadre du GouvTalk, rendez-vous d'échange en ligne initié par le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG. Il a tenu à rassurer les 2 millions de visiteurs attendus quant aux dispositions nécessaires prises par le gouvernement pour les accueillir et les héberger. Écoutons le ministre Siandou Fofana.
Nous sommes conscients que, à la veille d'une CAN, notre ministère est amené à héberger l'ensemble des participants, y compris ceux qui nous font l'amitié de venir participer à cette fête de l'Afrique, de sa jeunesse et que dire de tous les sportifs africains. Et donc c'est un peu plus de 2 millions de personnes que nous allons avoir à héberger sur toute la période de la compétition. Et donc nous nous attelons à créer les meilleures conditions pour les héberger, les recevoir et les divertir et faire en sorte que le concept abidjan est plus doux au monde, c'est vivre dans les assiettes, dans les restaurants, dans les pubs, dans les boîtes de nuit, dans les nightclubs. Donc c'est l'ensemble de toutes nos activités que nous mettons en branle en rapport avec le ministère de la Culture, le ministère de la Communication et naturellement ceux de l'artisanat. Vous comprenez que dans un tel contexte, sans oublier ceux de transport, nous allons vivre des grands moments de CAN jamais vécus sur le continent africain. Les 24 équipes qui nous font l'amitié d'être sur le territoire ivoirien vivront des émotions dont ils se rappelleront encore parce que la population ivoirienne veut vivre une CAN de l'hospitalité au sens réel du thème et nous sommes là pour accompagner et cette hospitalité doit se vivre d'abord avec notre ministère dans ses attributions et dans le déploiement de nos actions.
Le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana. Rendons-nous à présent à Yamoussoukro, où l'équipe du Sénégal, championne d'Afrique en titre, est arrivée dans la soirée du mardi 9 janvier 2024 pour défendre son titre. Sadio Mané et ses coéquipiers ont été chaleureusement accueillis à l'aéroport international de Yamoussoukro par de nombreux supporters ivoiriens et sénégalais. Témoin pour Radio de la Paix, Émile Yao.
C'est exactement à 21h30 GMT que l'Airbus A319 transportant le Lion du Sénégal s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international de Yamoussoukro où les attendaient de nombreux supporters ivoiriens et surtout sénégalais.
Ndiagandoy, secrétaire général de 12e Guindé de Yamoussoukro. Actuellement, Yamoussoukro, seulement il y a 1500 Sénégalais. Ça comptait les Sénégalais de la diaspora qui doivent venir. En tout cas, le stade est trop petit pour nous parce que c'est 20 000 places seulement. Alors, comme on nous a dit, c'est 18 400 places qui est disponible. Donc, on va noyer tout le monde.
Un accueil chaleureux et exceptionnel qui dénote de la suite des événements, indique El Hadj Diouf, ancien footballeur international, membre de la délégation sénégalaise.
Franchement magnifique, on voit que les gens nous attendaient et merci pour l'accueil chaleureux qu'on vient de recevoir et je crois que la fête va être belle.
Alors aujourd'hui, quelles sont les intentions de l'équipe sénégalaise?
On est les tenants du titre, on a la meilleure équipe et aujourd'hui, on ne se cache pas derrière rien du tout et je crois qu'on est venu pour prendre du plaisir, donner du plaisir et garder ce qui nous est très cher, qui est la Coupe. Et
bien que mobilisés pour la cause de leur équipe, les supporters sénégalais déplorent toutefois certaines insuffisances organisationnelles que relève
Diagon Doy. Juste un appel qu'on voudrait lancer par rapport à notre gouvernement. Il devrait au moins se mettre à notre disposition Village CAN, mais dans tout cela, rien n'a été établi.
Après le Sénégal, les Lions Indomptables du Cameroun effectueront leur arrivée ici à Yamoussoukro, en terre ivoirienne, ce mercredi 10 janvier, en cours de journée. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Note que les Lions Indomptables du Cameroun ont effectivement foulé le sol de Yamoussoukro ce mercredi à 10h30. À noter que la poule C logée à Yamoussoukro comprend le Sénégal, la Gambie, la Guinée et le Cameroun. Retour à Abidjan où l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny s'est mis aux couleurs de l'événement à 3 jours du début de la CAN 2023 en offrant un accueil festif aux voyageurs à travers les atouts culturels du pays. Une ambiance que nous fait vivre Christelle Yesso.
À l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, nous sommes interpellés par des sons de tam-tam. À l'entrée du hall d'arrivée de l'aéroport sont installés des danseurs traditionnels offrant un spectacle de danse hors du commun à tous les voyageurs atterrissant en terre ivoirienne. Des masques tels que le zaouli sont de sortie pour démontrer de la diversité culturelle du pays aux visiteurs. Des décorations en forme de ballons de football, des guirlandes et lumières ornent l'aéroport, annonçant déjà les couleurs d'une CAN qui se veut festive. Des jeunes filles venues visiter l'aéroport sont tombées sur ce spectacle des grands jours et n'ont pas caché leur fierté de voir leur pays accueillir la Coupe d'Afrique des Nations.
Voici moi, je n'ai pas. Quand il y a l'ambiance et autres, je suis fière de mon pays. En tout cas, je suis fière de mon pays.
Fraîchement arrivé du Cameroun, Mathieu se dit ébloui par le nouveau visage que présente l'aéroport Félix Houphouët-Boigny.
Mathieu Fangoua, je suis plutôt surpris. Je suis en Côte d'Ivoire pour le tirage au sort. J'arrive là pour la CAN, l'ambiance n'est pas de même. C'est une ambiance extraordinaire et je crois que tout est paré pour que la fête soit belle.
La CAN en Côte d'Ivoire, c'est aussi l'occasion de voir ses bénéfices doublés. Une aubaine pour ses chauffeurs de taxi stationnés à l'aéroport.
Zungrana Francis, habituellement quand on vient ici, on a lié. Il n'y a pas de client, mais Audi là, en tout cas, on profile avec les clients seulement.
À quelques heures du coup d'envoi de l'événement, tout est prêt pour la CAN de l'hospitalité.
Nous vous le disions en titre, le chef du gouvernement ivoirien, par ailleurs ministre des Sports et du Cadre de Vie, Robert Begré-Mambé, procède en ce moment même ce mercredi 10 janvier 2024 aux ouvertures successives à la circulation de la voie de contournement d'Abidjan, Y4, du 4e pont d'Abidjan, des voies des sorties est et ouest d'Abidjan, de l'échangeur du carrefour Makassi et du tunnel du rond-point de la mairie d'Abobo. Ces infrastructures réalisées par le gouvernement ivoirien permettront notamment de fluidifier la circulation dans la capitale économique ivoirienne Abidjan. Le Centre d'études prospectives CEP, institué le 25 octobre 2021, a organisé hier mardi 9 janvier 2024 aux deux plateaux sa rentrée solennelle 2024. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, par ailleurs président du comité d'administration de cet espace de think tank, a rappelé les enjeux de la création de ce centre, né dans un contexte où l'Afrique en particulier et le monde entier en général sont confrontés à de multiples défis politiques, socio-économiques, humanitaires et géopolitiques. Écoutons là-dessus le ministre Sidi Timoko Touré.
Le CEP est un think tank, en somme un réservoir d'idées, qui permet de se prononcer sur les politiques de développement, certes ivoiriens, mais surtout africains. Donc l'envergure, le champ d'action du CEP couvre non seulement la Côte d'Ivoire, mais surtout l'Afrique. Nous possédons en notre sein des expertises en recherche et en études, ce qui nous a amené durant ces deux dernières années à faire de la réflexion sur différents sujets liés à la géopolitique, à l'internationalisation, à la COVID, à l'agriculture, etc. Tous ces différents projets de réflexion ont été soumis aussi bien au gouvernement qu'aux différentes institutions qui en avaient besoin. Certaines études ont été l'objet d'exploitation, nous les avons constatées, et donc il était de bon ton, à l'entame de la nouvelle année, de venir présenter le nouveau programme d'action du CEP, ce qui a été fait. Ça sera une année très riche, qui a démarré par la remise de diplômes aux étudiants qui ont participé à la formation de l'UMF Suisse, qui est une université suisse qui en partie le CEP pour des formations sur le leadership. Parce que certes, il est bon de mener la réflexion, mais il est aussi bon de former ceux qui vont porter la mise en œuvre de ces réflexions à l'avenir. Et c'est ce qui justifie cette conjonction d'initiatives avec l'un de nos partenaires, UMF Suisse par ailleurs. Et nous fondons beaucoup d'espoir en cette jeunesse qui a beaucoup de choses à faire en l'avenir.
Le président du conseil d'administration du CEP, Sidi Timoko Touré, a assuré aller encore plus loin en 2024 en lançant des projets encore plus innovants, en développant de nouvelles avenues de réflexion et en renforçant des collaborations stratégiques. Cette journée a également été l'occasion de la remise des diplômes de fin de formation aux 25 étudiants ivoiriens du master de leadership et gouvernance de l'Université de Genève. Suisse UMF University. Au cours de cette rentrée solennelle 2024 du Centre d'études prospectives CEP, une conférence inaugurale a été prononcée par l'historien en relations internationales, Dr Bangali Ngoran, sur le thème « La gouvernance politique, sécuritaire et économique dans l'espace CEDEAO, quel rôle pour la Côte d'Ivoire ?» L'enseignant-chercheur à l'université Jean-Laurion Guédé de Daloa a soutenu que la Côte d'Ivoire, en raison de son rôle de locomotive de la sous-région, devrait avoir une position d'état stratège, comme à l'ère du président Félix Houphouët-Boigny, dans un monde où les contextes géopolitiques sont mouvants. Écoutons à cet effet les explications du docteur Bangali Ngoran.
Et aujourd'hui, si nous faisons une réflexion rapide, chacun à son niveau, nous sommes d'accord que après la gestion du dossier lié à la vague des coups d'État, on peut tout de suite se faire une idée de savoir est-ce que la Côte d'Ivoire a reculé ou progressé en termes d'influence dans ce qu'on a appelé son interland historique, c'est-à-dire le Mali, le Burkina, le Niger. Si la Côte d'Ivoire a reculé, alors quelles sont les leçons qu'on tire de ce recul-là et qu'est-ce qu'il faut poser comme analyse par rapport à la gestion de la suite ou en tout cas de la suite de ce dossier parce qu'il est encore pendant. Si la Côte d'Ivoire veut gagner en influence, non seulement garder son influence au niveau de son interland immédiat ou encore son influence au niveau de l'UMOA et avoir des intentions d'assumer bien sûr son rôle de centre géopolitique stratégique naturel de la CEDEAO, elle doit revenir à son statut ou en tout cas à sa posture d'état stratège. Parce qu'en matière de politique étrangère, qu'importe le cadre d'action de l'État, qu'il soit un cadre souverain ou un cadre collectif, le état stratège ne connaît qu'un seul critère de raisonnement, la projection de son influence.
Voilà, c'était Dr Bangali Ngoran, enseignant-chercheur à l'université Jean-Laurion Guédé de Daloa. Hors de Côte d'Ivoire, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, poursuit sa tournée régionale pour juguler l'escalade. Il a appelé Israël à épargner les civils palestiniens dans sa guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza et il rencontrera aujourd'hui Mahmoud Abbas pour lui expliquer les raisons pour lesquelles il souhaite que la paix revienne dans cette partie du monde, nous apprend l'agence France-Presse. Un mot de l'actualité sportive hors de Côte d'Ivoire. Une page noire, bien entendu, sport football. Franz Beckenbauer, légende du football allemand et double ballon d'or en 1972 et 1976, est mort le lundi 8 janvier, a annoncé la Fédération allemande de football. À 78 ans, l'ancien défenseur central du Bayern de Munich et de la Nationalmannschaft était en mauvaise santé à cause de plusieurs opérations au cœur. On en parle avec vous, César Yao.
Né en septembre 1945 dans les ruines de l'Allemagne d'après-guerre, fils d'un directeur de bureau de poste, Beckenbauer rejoint le Bayern en 1964 alors qu'il n'a pas encore 19 ans et y passe la majeure partie de sa carrière. Il se crée sur mesure un poste adapté à son talent, libéraux, évoluant derrière sa défense, mais venant régulièrement faire le surnombre en milieu de terrain, d'où il a marqué la majorité de ses plus beaux buts. Ce joueur assez et élégant, au port toujours altier, s'est bâti un palmarès exceptionnel, 4 titres de champion et autant de Coupe d'Allemagne, 2 ballons d'or, 3 succès d'affilée en Coupe d'Europe des clubs champions, l'ancêtre de la Ligue européenne des champions. Avec la sélection, il a réalisé le doublé championnat d'Europe en 1972 et en Coupe du Monde en 1974. Cerise sur le gâteau, le sacre planétaire a lieu chez lui dans le stade olympique de Munich à quelques encablures de sa maison natale. Il joue cette dernière saison entre New York et Hambourg avant de raccrocher en 1983 et de débuter une carrière d'entraîneur, lui qui affirmait comme joueur qu'il n'en avait pas la moindre intention. Champion du monde comme joueur et entraîneur, Frank Beckenbauer était l'un des plus grands footballeurs allemands et pour beaucoup des Kaiser, parce qu'il a aussi passionné plusieurs générations pour le football allemand. Et il va nous manquer à saluer le chancelier allemand Olaf Scholz.
Plus que quelques jours pour entamer la plus prestigieuse compétition continentale, la CAN 2023, la Coupe d'Afrique des Nations, et San Pedro qui accueille la poule F s'active en ce moment pour que ce rendez-vous footballistique soit éclatant. Dans ce dossier d'actualité, notre correspondant régional dans le Bassa, Sandra Kofi Benson, nous plante le décor avec les réactions des populations avant le début de la compétition.
San Pedro aux couleurs de la CAN, cela est visible déjà à partir de l'ancien corridor 3S avec un décor harmonieux présenté sur les talus dont l'expression se résume par un dinio qui en langue locale veut dire « bienvenue ». La CAN de l'hospitalité est visiblement acceptée par les populations de San Pedro selon le Premier ministre Robert Mambé.
Ces populations qui sont à San Pedro sont mobilisées pour faire de chaque équipe leur référence, c'est-à-dire aucune équipe ne sera orpheline à San Pedro. Toutes les équipes auront des supporters. C'est ce que demande le président Alassane Ouattara. Parce qu'il nous demande d'être chacun l'ambassadeur de la CAN.
Des supporters avec des maillots et t-shirts aux couleurs des drapeaux des différents pays hôtes. Ndiaye Moussa, président de l'Union des fédérations des organisations de jeunesse du Bassa Sandra, donne quelques dispositions de mobilisation des supporters.
La ville est divisée en 4. Le lac et la cité sont les supporters du Maroc. Et le QG, le CEK 1 jusqu'à CEK 5, c'est les supporters du Congo. Les QG, Gagnouaga. Et puis les supporters des Zambie, depuis Tanri, Bardo, les QG, Place Ado. Et les supporters des Tanzanie, c'est depuis le corridor jusqu'à l'université, les QG à la place Maracana.
La CAN, c'est aussi les opportunités d'affaires. Les acteurs de la restauration, de l'hôtellerie, les maquis et bars s'activent ça et là pour un accueil des visiteurs. Pour Henri Martin, opérateur économique dans le secteur de l'hôtellerie, il faut mettre tout en œuvre pour la satisfaction des visiteurs.
Dans les investissements, nous avons mis un accent particulier sur les matelas que nous avons tout changé. Nous avons refait la peinture. Nous avons même fait un château d'eau parce qu'il est aussi un peu récurrent. Les coupures d'eau. Nous avons remplacé pratiquement 92% des climatiseurs. Nous avons remplacé également tous les postes téléviseurs. Nous avons fait tout pour être à la hauteur du défi.
L'œuvre humaine n'étant pas parfaite, l'organisation de la CAN entraîne quelques grincements des dents. Ouseidou Camara, président du réseau des ONG, mouvements associatifs et coopératives du Sud-Ouest, il faut permettre aussi aux petits commerçants de profiter de cette CAN.
La fan zone qui s'installe à la Rotary, combien de femmes de San Pedro seront là-bas? Les stands là, pour un 12 mètres carrés, il faut payer 600 000. Pour 24 mètres carrés, il faut payer 1 million. Et déjà, des grosses sociétés sont citées et qui viennent d'Abidjan, qui ont une accréditation pour venir occuper l'espace là qui devait permettre aux gens de San Pedro de vraiment s'amuser. Même les jeunes qui ont habituellement payé les taxes au niveau de la mairie, qui avaient leur kiosque autour de la Rotary, ont été déguerpis. Ça veut dire que pendant un mois, leur boutique est fermée. Alors qu'ils ont rêvé avoir de l'argent aussi. La CAN devait donner plus de joie, plus d'engouement. Mais si on déguerpit tout le monde, j'ai peur. Aujourd'hui, la seule joie qu'on peut exprimer, c'est le recrutement de quelques jeunes pour être soit volontaires ou bénévoles. Notre objectif, c'est de plaider pour la cause de nos populations. Qu'on permette à nos populations de vraiment gagner quelque chose.
Comme pour dire que San Pedro attend beaucoup de cette CAN. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Nous arrivons à présent à l'invité de la rédaction. Reporters sans frontières a publié récemment la 21e édition du classement mondial de la liberté de la presse. La Côte d'Ivoire qui occupait la 37e place passe désormais à la 54e place. Interrogé par Aoussi Poutin, le chef du bureau Afrique de l'Ouest de RSF, Sadibou Maron intervient sur les raisons de ce classement.
Monsieur Sadibou, bonjour.
Bonjour.
Reporters sans frontières vient de rendre publique la 21e édition du classement mondial de la liberté de la presse. Et selon donc ce classement, la Côte d'Ivoire passe de la 37e à la 54e place. Qu'est-ce qui explique, nous allons dire, cette dégringolade de la Côte d'Ivoire?
D'une manière générale, la Côte d'Ivoire est quand même un pays qui est réputé de tradition de liberté de la presse. Et le classement qui a été publié montre effectivement une chute du pays de 17 places environ. Donc, c'est expliqué un peu par un certain nombre de facteurs plus ou moins liés souvent à la liberté de la presse, tels que les journalistes et les acteurs principaux des médias et de l'information d'une manière générale en jouissent, et tels que aussi le public le perçoit. C'est aussi un pays où on a vu, par exemple, quand même, malgré le fait qu'il y ait ce paysage médiatique toujours parmi, disons, les plus politisés de la sous-région et plus ou moins polarisés sur un certain nombre de sujets. C'est quand même un pays où on parle d'une presse du pouvoir, la presse de l'opposition. Et il y a, malgré cela aussi, le fait qu'il y a quand même des stations de radio, des chaînes de télévision, même si la RTI reste prédominante, il y a des chaînes privées qui sont apparues ces dernières années. Ça, c'est quand même quelque chose à mettre à l'actif du pays. Mais on a vu aussi qu'il y a eu quelques petits soucis avec des journalistes d'investigation. Je pense comme ça au cas de Jean-Noël qui avait été convoqué et puis placé en garde à vue, bon, finalement libéré. Ce sont des choses qui comptent dans le dispositif d'une manière générale. Sur le plan économique aussi, il nous semble qu'on voit en Côte d'Ivoire une baisse des ventes de journaux, par exemple.
Alors, Sadibou Maron, là, vous nous avez donné un aperçu de ce qu'il en était de la Côte d'Ivoire. De façon générale, quel est aujourd'hui l'état de la liberté de la presse et de l'accès à l'information en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest?
En Afrique de l'Ouest, il y a deux niveaux. Dans le premier niveau, il y a les pays qu'on peut considérer comme les pays dirigés par des autorités militaires, Mali, Burkina, Niger. C'est très problématique un peu dans ces pays-là. Aujourd'hui, au Mali, il n'y a presque plus de correspondants de la presse internationale. C'est le même cas au Burkina, c'est le même cas au Niger. Au Burkina, la situation se dégrade de jour en jour avec des décisions pratiquement liberticides prises par les autorités militaires qui ont expulsé les correspondants internationaux, qui ont suspendu des chaînes internationales en français comme RFI, France 24. Et tout cela constitue des problèmes et ils cherchent aussi à contrôler les régulateurs. Dans nos pays, en Afrique de l'Ouest, généralement, et on a ce qu'on appelle les conseils supérieurs de la communication ou bien la haute autorité de la communication ou bien le conseil national de régulation. Au Burkina, il s'agit du conseil supérieur de la communication. Aujourd'hui, le président est nommé et choisi directement par le chef des autorités militaires. Mais c'est les mêmes tendances qu'on voit un peu au Niger. Quand on leur parle, ils vous disent qu'il n'y a pas de problème de liberté de la presse, alors qu'il y a les problèmes de sécurité des journalistes, les problèmes un peu de relations entre les médias et le public sont réels. C'est aussi le cas du Mali, où on vous parle de traitement patriotique de l'information, qui vous met dans une sorte de corset en tant que journaliste. Si on vous dit traitement patriotique de l'information, cela veut dire que vous ne pourrez pas peut-être parler en toute liberté. Il y a aussi le deuxième niveau qui est, disons, moyen dans des pays qui étaient jusque-là les fleurons de la liberté de la presse, comme le Sénégal, qui a vraiment chuté dans le classement de RSF en 2023 à la 104e place. Donc, d'une manière générale, c'est un peu comme ça, mais on voit des pays qui progressent vraiment, comme le Cap-Vert et la Gambie, qui est partie de très loin depuis jamais, mais qui, ces cinq dernières années quand même, a fait un progrès et qui fait de la Gambie presque le premier pays africain dans le classement mondial de la liberté de la presse à la 50e place.
Alors, Sadibou Maron, pour finir, comment est-ce que l'on peut aider aujourd'hui à améliorer les conditions de travail du journaliste en Afrique de l'Ouest pour que l'information puisse parvenir aux populations de façon précise et de façon aussi exacte?
Nous pensons fondamentalement que l'information est importante. La liberté de la presse est une sorte de pierre angulaire de la démocratie, comme on le dit souvent. Et en Afrique de l'Ouest, au-delà des cas du Mali, du Burkina et du Niger, il faut continuer à favoriser le fait que l'information doit être une denrée importante et que cette information-là doit être bénéfique, utile et digne d'intérêt pour les populations africaines. Elle doit pouvoir être transmise dans les langues officielles, mais aussi les langues nationales. Mais aussi, la protection des journalistes est importante. Leur protection nous semble cruciale et ça relève des autorités africaines qui, au titre des constitutions, ont la prérogative de protéger les citoyens, y compris donc les journalistes. On ne devrait pas aussi, dans nos pays, penser à faire des arrestations arbitraires de journalistes. Donc, il faut respecter la dépénalisation des délits de presse, promouvoir cela, et essayer de mettre les conditions nécessaires pour que les journalistes eux-mêmes puissent travailler sans crainte et sans risque de représailles au bénéfice des sociétés africaines, notamment dans nos pays.
Sadibou Marron, nous vous remercions.
C'est moi. Merci, bonne journée.
Voilà, Sadibou Marron, l'invité de la rédaction, était interrogé par Aoussi Potin. Tout de suite, le rappel de l'essentiel. Infrastructure routière, le Premier ministre, chef du gouvernement, Begré Mambé Robert, procède en ce moment même, ce mercredi, aux ouvertures successives à la circulation de la voie de contournement d'Abidjan Y4, du quatrième pont d'Abidjan, des voies de sortie est et ouest d'Abidjan, de l'échangeur du carrefour Makassi et du tunnel du rond-point de la mairie d'Abobo. Ce journal est donc terminé. Je vous retrouve à 15h pour un nouveau point sur l'actualité. Merci de votre aimable attention. Dans quelques instants, la revue de presse de Francis Cassi.
Bonjour à tous. Pour plus de fluidité routière à Abidjan, des infrastructures réalisées dans ce sens livrées aujourd'hui. C'est par ce sujet que nous ouvrons notre examen de vos quotidiens de ce mercredi. Quatrième pont, Y4.